On va commencer. Quelques petits mots introductifs avant de passer la parole à Gérard Mauger puis à Christelle Avril. Au niveau de l'organisation, je vous propose qu'on écoute les deux interventions et puis qu'on échange ensuite. Nous avons souhaité dans cette semi-plénière, quand je dis nous, c'est moi et le Centre Nantais de Sociologie, repartir des réflexions proposées par Olivier Schwartz sur les classes populaires, entre guillemets. Celui-ci nous rappelle d'abord contre une forme d'évidence avec laquelle nous parlons parfois de classes dominées ou de classes populaires, que nous ne les connaissons pas si bien que ça, et invite à les étudier empiriquement en défendant l'idée qu'il existe dans nos sociétés des groupes nombreux dont la position est définie par le fait qu'ils subissent à la fois une domination sociale et économique et une domination culturelle. Alors, cette invitation à étudier empiriquement les classes populaires, qu'on peut lire, me semble-t-il, dans ces réflexions de Schwartz, elle est aussitôt tempérée par une espèce de réserve ou de doute. Il y a un peu, je trouve, l'idée que si on étudie ces catégories sociales modestes vraiment de manière approfondie et également en choisissant des terrains qui correspondent à des situations contemporaines ou surtout à des situations qui aujourd'hui en nombre se développent. Je prends un petit exemple, les emplois féminins des services à la personne plutôt que les emplois ouvriers de l'industrie, eh bien, il me semble qu'il y a chez Schwartz cette suggestion qu'on ne va peut-être pas trouver ces catégories sociales modestes si populaires que ça. Cette fois, au sens où cette notion de populaire, elle paraît parfois désajustée du fait que ces catégories sociales modestes aujourd'hui, loin d'être repliés sur leurs univers culturels propres, interagissent largement avec d'autres groupes sociaux, que ce soit sur la scène du travail ou de l'école, par exemple, sont ouvertes au monde extérieur et aux formes symboliques dominantes. Et il nous semble qu'il y a là un appel à penser, en fait, à la fois le poids et la permanence des dominations, mais aussi le changement social. Et le changement social vu des catégories dominées, entre guillemets. Donc, pour résumer un peu les questionnements, c'est est-ce que l'hétérogénéité interne des classes populaires, tant du point de vue des ressources que des modes de vie, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui accentuée au point qu'il n'y ait plus grand sens à regrouper toutes les catégories sociales modestes sous ce label très synthétique de populaire? Et d'un autre côté, donc il y a un peu ces doutes, ces réserves, et d'un autre côté, on sait aussi que la domination économique et matérielle s'est sans doute aujourd'hui accrue par rapport à une période, à la période antérieure. Et du coup, on peut aussi être au contraire poussé à considérer que les frontières des classes populaires, au contraire, s'étendent. Donc, il n'y a bien sûr pas de réponse simple à ces questions. Et nous sommes très heureux d'accueillir Christelle Avril et Gérard Mauger pour initier les échanges autour de ces questionnements. Leurs recherches respectives, pour l'une sur les pratiques et conceptions du travail des aides à domicile, une recherche qui donnera lieu en novembre à la sortie d'un ouvrage à la dispute qui s'intitule « L'autre monde populaire », et pour l'autre, une recherche notamment sur l'espace des styles de vie des jeunes des classes populaires, nous semble illustrer, chacune à leur façon, la fécondité et l'actualité d'un projet qui vise en fait à affiner, à complexifier la connaissance sociologique des catégories sociales modestes aujourd'hui. Donc je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Et puis je leur passe la parole, donc d'abord à Gérard Mauger, puis à Christelle Avril.
Merci Marie, merci de cette invitation. je suis un peu anxieux parce que j'ai la conviction que je vais être beaucoup trop long, il faudra m'interrompre, tant pis. Quoi. Bon, je vais essayer néanmoins de faire ça dans les temps. Voilà, de façon très générale, il me semble que les représentations du monde social peuvent être abordées comme le produit d'innombrables actions de construction qui sont toujours déjà faites et toujours à refaire. Dans les luttes symboliques auxquelles ces constructions donnent lieu, les professionnels de la représentation, les hommes politiques d'abord, les journalistes, puis les intellectuels, dont les sociologues, occupent évidemment une place tout à fait centrale. Ils contribuent à la production de l'ordre social, ne serait-ce qu'en proposant une mise en ordre du monde social, et contribuent également à la production des groupes qu'ils désignent, en énonçant par exemple des principes de regroupement ou des lignes de clivage. Dans ces luttes symboliques, donc à la fois professionnelles et profanes, individuelles et collectives, spontanées et organisées, les ressources qui sont mobilisées et détenues par les uns et par les autres sont évidemment très inégales. C'est pourquoi Bourdieu disait que, je cite, « dominer jusque dans la production de leur image du monde social et par conséquent de leur identité sociale, les classes dominées ne parlent pas, elles sont parlées ». C'est aussi la raison pour laquelle les représentations des classes populaires est d'abord un enjeu de lutte entre les intellectuels, d'où à mon sens une interrogation que je voudrais vous proposer sur les conditions de production de ces représentations des classes populaires de façon générale. Si donc l'on s'en tient aux représentations que produisent plus spécifiquement les sociologues, elles dépendent, me semble-t-il, d'une part, de la position occupée par chacun dans un état défini du champ de production sociologique et en particulier de la trajectoire qui a conduit à cette position. Elles dépendent d'autre part, ça me semble important également, de la valeur, en quelque sorte, de la cause des classes populaires à un moment donné dans le champ politique et dans le champ intellectuel. Quant à ce que ces représentations doivent, par exemple, à la trajectoire biographique, on comprend facilement qu'elles dépendent de la plus ou moins grande distance ou proximité de chacun par rapport aux classes populaires, et même vraisemblablement aussi par rapport à telle ou telle fraction, plus spécifiquement, de ces classes populaires établies ou marginales, par exemple. Quant à ce que ces représentations doivent à la valeur conjoncturelle accordée à la cause des classes populaires, il suffit, pour en prendre l'ampleur, de mesurer l'écart cette valeur à 50 ans de distance, comment on est passé, en tout cas c'est comment je suis passé, c'est quasi autobiographique mon propos, en tout cas une partie du début du propos, d'un populaire positif lié à une espèce d'enchantement ouvriériste des années 60 à un populaire négatif, supposé particulièrement réceptif aujourd'hui aux sirènes du Front National. Comment on est passé, en quelque sorte, de la célébration qui semblait aller de soi de l'homme de marbre à la stigmatisation du beauf. Une inversion de signe, du positif au négatif, corollaire de la disqualification du marxisme consécutive à une hégémonie que j'ai vécue quand je débarquais dans le champ intellectuel. Voilà, je voudrais donc prendre la mesure des effets du rapport à l'objet sur les représentations produites, en esquissant d'abord une histoire des fluctuations du cours de la cause des classes populaires dans le champ politique et dans le champ intellectuel, puis en essayant de montrer comment l'histoire de ces fluctuations permet d'éclairer trois controverses sociologiques récurrentes par rapport aux classes populaires, théorie versus empirie, soumission versus résistance, misérabilisme versus populisme, avec l'idée d'ébaucher des tentatives d'échapper à ces alternatives. D'abord, donc, une histoire, une ébauche d'une histoire des fluctuations du cours de la cause des classes populaires dans la France des années 60 à nos jours, donc c'est très très ambitieux. Je restreins dans le champ politique et plus spécifiquement le monde des sociologues, en précisant encore qu'il s'agira d'une espèce de témoignage contrôlé, quand même, plutôt que d'une véritable enquête, du fait que du caractère un peu de témoignage de ce que je vais dire, et j'ai conscience aussi du caractère évidemment partiel, et peut-être partial, j'espère pas trop, de cette histoire, et qui reposera donc sur un essai de périodisation, dont je sais aussi lui-même qu'il est tout à fait contestable, en quatre périodes. Mais enfin bon, je poursuis. Première période, des années, donc je commençais au début des années 60, donc à mai-juin 68. Comment retracer rapidement ce qu'était l'état de la cause des classes populaires dans le champ politique et dans le champ intellectuel ? Dans le champ politique, il faut se rappeler, ça fait bizarre aujourd'hui, hein, c'est des propos de vieillard quoi, bon, que je vous tiens là. Il faut se rappeler d'un espèce d'état d'esprit, un air du temps, un zeitgeist, comme on dit chez les philosophes, marqué par une offensive des classes populaires. À cette époque-là, il y avait eu la révolution cubaine en 1959, il y avait eu la victoire algérienne en 1962, les accords d'Évian, il y avait le début de la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine, 1966. Il y avait l'ébullition au sein du Parti communiste italien, vous vous rendez compte, pensez ce qu'il en reste. Un PCF en France qui était à plus de 20%. Bon, voilà, c'est un contexte que j'ébauche très, très, très rapidement, mais voilà, qui permet, je crois, de comprendre le changement de conjoncture tout à fait essentiel entre cette époque-là et maintenant. Deuxième aspect, dans le champ intellectuel, je crois que ce qui était caractéristique, je crois, c'était l'hégémonie marxiste. Alors, ça fait bizarre aussi, je sais bien de dire ça, mais je crois que c'était vrai. On peut parler, là, j'ai travaillé plus sur ça, une espèce d'hégémonie marxiste dans le champ intellectuel qui existait au moins sous trois formes. La vulgate marxiste du PCF, bon, c'est méchant de dire ça, mais je crois que c'était vécu par beaucoup comme ça. Bon, c'était Roger Garaudy, quoi. Bon, voilà, le maître à penser de l'époque. Une version humaniste aussi du marxisme qui correspondait au Marx des manuscrits de 44, qui était assez proche d'une forme d'existentialisme sartrien. Et puis, je pense c'était important, en tout cas pour moi, la version althusserienne, qui était en rupture justement avec les deux autres, qui affichait le parti de la science contre l'idéologie, qui imposait à chacun ou qui inculquait à chacun le retour à Marx, il fallait lire le Capital, etc., ce que j'ai fait comme d'autres à cette époque-là. Ce qui est bien, c'est des bouches d'histoire très très rapides, pour essayer de reconstituer ce qu'étaient les schèmes de pensée de base d'un intellectuel 68 ans, dans les années 60. D'une part, je crois qu'on peut dire, je la résumerai en trois traits, d'une part, une croyance partagée par rapport au messianisme ouvrier, ça allait de soi. La classe ouvrière a été dotée à cette époque-là de capacités de résistance, de lutte, et même d'une capacité prophétique à renverser l'ordre social. Deuxième aspect, cette croyance prophétique, en quelque sorte, était validée par la prophétie marxiste. On jouissait, en quelque sorte, la prophétie jouissait de la garantie de la science, en tout cas, telle qu'elle était professée par Althusser à cette époque-là. Dans la version althusserienne, la science s'opposait à l'idéologie, comme la rue d'Ulm s'opposait à la rue Le Pelletier, c'était le siège du Parti communiste à cette époque-là. Voilà. Tout ça, cette double croyance, cette croyance validée par la science, se traduisait par une forme d'engagement politique, par une affiliation, une réaffiliation aux classes populaires, il fallait servir le peuple, et une désaffiliation affichée par rapport soit à la classe d'origine ou à la classe d'accueil. Deuxième séquence, les années gauchistes de mai 68 à 72. Alors celle-ci est beaucoup plus courte, je sais, mais je pense qu'elle est relativement importante. Alors, mai-juin 68, je sais bien que c'est très scabreux ce à quoi je joue, hein, résumer les interprétations de 68 en trois mots, bon, tant pis. Hein. Ce qui me semble important, quant à moi, ce qui a semblé important en tout cas à ceux dont je parle, c'était que après mai-juin 68, la révolution pouvait sembler à l'ordre du jour. Au fond, d'une certaine façon, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, d'une certaine façon et de façon assez incroyable à mes yeux, mai-juin 68 validait la théorie marxiste, l'idée que ce qui était écrit sur la couverture des cahiers marxistes-léninistes, à cette époque-là c'était la revue théorique althusserienne, hein, il écrit une phrase de Lénine, la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. Bon voilà, ça semblait un peu bizarre, mais ça semblait vrai quoi, bon, après ça. Donc, d'une certaine façon, en fait, mai-juin 68 a été beaucoup, en tout cas pour ceux dont je parle, une illusion, l'illusion de la répétition générale. Hein, 1968, en quelque sorte, c'était 1905. Quoi. Ça allait venir. Voilà. Alors, deuxième aspect, c'est le caractère, il faudrait développer, mais je n'ai pas le temps, le caractère protéiforme de l'expérience gauchiste. Je vais en retenir simplement un thème qui m'intéresse en particulier ici, ne serait-ce qu'il, parce qu'il était le mien, une forme de spontanéisme maoïste qui me semble avoir été important par rapport à ce qui va suivre. D'une part, dans cette perspective-là, il y a eu une espèce de mise en cause de ceux qui parlaient au nom de la science, les althusseriens, justement, de juste avant, hein, ceux qui parlaient au nom de la vérité de la théorie telle qu'elle a été écrite dans le Capital. Et puis, mise en cause, d'ailleurs, de façon plus générale, des porte-paroles, on appelait les gens, justement, les gens, comme on disait aussi déjà à cette époque-là, à prendre la parole. Voilà. Je passe. Deuxième aspect qui me semble important sur cette expérience gauchiste, c'est la diversité des expériences de la rencontre avec les classes populaires, qu'elles soient faites aux portes des usines, dans les usines, pour certains, et les établis. dans les quartiers populaires pour d'autres, ou dans les bibliothèques encore pour d'autres. Bon, je pense qu'on peut, par exemple, deux aspects qui me semblent importants sous ce rapport. D'une part, souvent, l'élection d'une figure centrale au sein de la classe ouvrière. Alors, c'est une figure, cette figure centrale, telle que les gauchistes ont pu l'élire, elle avait ses caractéristiques d'être en général soustraite à l'influence révisionniste, comme on disait. Donc, c'était pas les ouvriers sous l'influence du PC et de la CGT, quoi, grosso modo. Et une classe ouvrière plus ou moins conforme aux représentations plus ou moins fantasmatiques des intellectuels de l'époque. Très souvent, ça donnait les OS, de préférence aux OP, et les OS immigrés, de préférence aux OS tout court. Voilà. Pour d'autres, c'était souvent la découverte ou la redécouverte de la diversité des figures ouvrières. Le constat, par exemple, plus ou moins désabusé, que ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, ça ne concernait qu'une petite minorité de la classe ouvrière. Comme dit Didier Ribon après sa sortie du JCML, il ne voulait pas faire la révolution, il voulait faire construire un pavillon. Bon, ça explique assez bien, je crois, bon, le type de désillusion de certains qui, voilà, trouvaient que c'était pas si simple que ça, quoi, le messianisme ouvrier, la révolution pour demain. Bon, c'était plus compliqué que ça. Voilà. Alors, quant aux controverses auxquelles tout ça, ça a donné lieu au sein du champ intellectuel, j'en tiendrai au moins deux aspects. D'une part, l'essor d'un subjectivisme populiste contre la théorie, contre la science, dont j'ai déjà évoqué à l'instant. La remise en cause, par exemple, de la distinction science-idéologie, par exemple, c'est tout à fait la critique de Rancière, par exemple. Voilà. Althusserien convaincu, maître à penser althusserien, bon, voilà, après son expérience gauchiste, bon, renie ce qui précède. Voilà. Remise en cause aussi de la représentation monolithique de la classe ouvrière et des classes populaires, par exemple avec le clivage entre les établis, les marginaux, les OS, les OP, les Français, les immigrés, etc. Tout ça, bon, apparaît inévitablement au terme de cette expérience. Troisième phase, la contre-culture, de 1972, grosso modo, à 1981, pour aller vite. La cause des classes populaires dans le champ politique. Alors, trois aspects qui me semblent importants. D'une part, le déclin gauchiste, très vite, ça n'a pas duré longtemps. Hein, l'expérience gauchiste, c'est très court, en fait, dans la plupart des cas. Hein, mais quelques années. Le déclin gauchiste. Deuxième aspect, la remontée en puissance du PCF, ça c'est important. 1972, c'est la signature du programme commun. Troisième aspect, celui que je viens d'évoquer dans le titre, l'émergence de la contre-culture. Alors, l'émergence de la contre-culture, bon, là, je pourrais développer davantage, mais bon, je vais vite. D'une part, la critique du militantisme sacrificiel gauchiste antérieur, ça c'est important, et la réhabilitation du petit bourgeois, de ses révoltes, de ses désirs, etc. Et la disqualification, d'ailleurs parallèle, ça va de pair, la disqualification parallèle du beauf, dont je parlais tout à l'heure, une espèce d'anti-héros constitué comme l'antithèse du petit bourgeois libéré, quoi, en quelque sorte, vous voyez, l'affranchi, quoi. Voilà. Et l'ouverture de nouveaux fronts de lutte, des fronts de lutte perpendiculaires lutte de classe, ça c'est important, hein, c'est le MLF bien sûr, les femmes versus les hommes, les jeunes versus les vieux, le front de libération de la jeunesse, le front homosexuel d'action révolutionnaire, homo versus hétéro, puis etc. C'est à cette époque-là qu'on invente voilà, toute une série de fronts qui vont être qu'on a la caractéristique commune d'être perpendiculaires au front des luttes de classe. Alors, quant au bouleversement que ça induit dans le champ intellectuel, je pense qu'on peut en voir au moins deux qui me semblent tout à fait importants. D'une part, la destitution, en quelque sorte, très vite, très rapide, de la classe ouvrière comme sujet de l'émancipation, comme dit Ramzy Kechayan, et l'investissement, en quelque sorte, ou l'invention de nouveaux sujets révolutionnaires qui sont des espèces de substituts, ou pensés comme des espèces de substituts à une classe ouvrière défaillante ou embourgeoisée. Ça donnera, je sais pas, des titres comme Les adieux au prolétariat d'André Gortz, 1980. Voilà, mais il y en a plein d'autres, hein, du même acabit à cette époque-là. Deuxième aspect, la critique du marxisme. Alors, d'une part, la disqualification par les nouveaux philosophes, tout le monde sait ça, Staline égale Lénine égale Marx égale Goulag, bon, voilà, on répète ça pendant 10 ans. Bon, puis, la critique, en même temps, simultanément, mais ailleurs, la critique de l'économisme marxiste, avec un intérêt croissant pour les dimensions culturelles, symboliques du monde social, parallèle justement au déplacement de l'intérêt de l'exploitation économique vers d'autres formes de domination, ce que j'évoquais à l'instant. Un intérêt donc qui aboutit finalement à un déplacement des investigations du travail vers le hors-travail, de l'objectivisme vers le subjectivisme, le vécu, comme on dit à cette époque-là, des enquêtes quantitatives vers les enquêtes qualitatives, l'ethnographie, bon, voilà, des stades vers l'ethnographie, etc. Et puis, bien sûr, tout ça sur fond d'une mise en cause de la vision marxiste du monde, classe et lutte de classe, et la multiplication des clivages, hommes-femmes, jeunes-vieux, homo-hétéro, etc. Voilà, troisième, quatrième et dernière séquence que je tire de façon scandaleuse, de la longue éclipse des classes populaires de 1981, on devrait-on dire, à 2013, jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, je vais très... Bon, tant pis. Hein. Alors, premier aspect, c'est le déclin, je crois, très fort de la cause des classes populaires dans le champ politique. Bon, voilà, c'est ce qui permet de dire que c'est une période très très longue. Hein. Bon, alors, bien sûr, il y a la victoire de l'Union de la gauche en 1980, mais juste après, il y a aussi la victoire de la deuxième gauche sur la première. Hein, et puis, progressivement, la conversion néolibérale du Parti socialiste, le déclin, bien sûr, accéléré du PCF. Hein, 1989, aussi, bien sûr, l'effondrement du bloc soviétique, l'abstentionnisme électoral croissant des classes populaires, et puis on en vient à là où nous en sommes, avec ce moment sans doute important quand même, les grèves de 95 contre le plan Juppé, avec ce qu'elles impliquent aussi du côté des intellectuels, avec la guerre des pétitions chez les intellectuels, qui réactive en quelque sorte un clivage un peu oublié à cette époque-là. Donc il faudrait sans doute distinguer d'autres périodes, tant pis. Voilà. Alors, quant aux conséquences dans le champ intellectuel, éclipse des classes populaires aussi dans le champ intellectuel, ce qui veut dire, je crois, recul de la thématique des classes sociales de façon générale et de l'intérêt en particulier pour les classes populaires. C'est l'époque où se mettent en place, dans le champ des monde des sociologues, de nouvelles visions du monde social qui opposent les inclus et les exclus, in-out, la moyennisation croissante de la société française, il n'y a plus que des moyens, quoi, avec deux petits bouts, l'individualisation croissante, il n'y a plus que des individus, la multiplication des clivages dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, donc une multiplication des clivages parallèle à celle des causes dont je parlais tout à l'heure. À l'exception, toutefois, bon, des marxistes et de plus en plus rares, hein, faut bien le dire, pendant toute cette période, et aussi du petit groupe des bourdieusiens qui maintiennent l'existence des classes sociales, mais qui sont assez isolés pendant assez longtemps de ce point de vue-là. Voilà. Alors, il faudrait tempérer ce que je viens de dire là par une relégitimation contemporaine, mais je ne l'ai pas daté parce que je ne sais pas le faire, de la notion de classe sociale, une relégitimation de l'intérêt, sans doute, ou un revival de l'intérêt pour les classes populaires. Je pense à l'écho trouvé par le livre de Stéphane Beau et Michel Pialou, « Retour sur la condition ouvrière, 1999 », et qui, d'une certaine façon, signe, en tout cas indique, le regain de cet intérêt qui fait que vous êtes assez nombreux ici, en tant qu'un vieux bonhomme, vous parler de la cause des classes populaires. Alors, j'en viens à ces trois controverses sociologiques récurrentes que je voulais évoquer à propos des classes populaires. Il me semble que, si schématique qu'elle ait été, ma petite histoire... cette histoire de la cause des classes populaires, et plus exactement des fluctuations de la valeur accordée à la cause des classes populaires, permet d'éclairer trois controverses sociologiques récurrentes à propos des classes populaires. D'une certaine façon, il me semble que les trois controverses que je vais évoquer sont une réactivation permanente, une reconduction sur un mode théorique dans le champ sociologique des clivages que j'ai essayé d'énoncer précédemment au fil de cette histoire. D'une part, donc, je crois qu'on peut les réduire à trois, une quatrième que j'évoquerai en conclusion, théorie versus empirie, soumission versus résistance, misérabilisme versus populisme, les deux dernières étant d'ailleurs, je crois, deux déclinaisons de l'alternative objectivisme-subjectivisme. Bien, alors, théorie empirie. Je crois qu'on pourrait décrire l'histoire de la sociologie des classes populaires comme une oscillation récurrente, une espèce de sociologie descriptive et une théorie, bon, ou des prises de position théoriques associées à la posture philosophique, et en l'occurrence le plus souvent à la philosophie marxiste. La posture philosophique, donc associée à l'exigence de hauteur théorique, à la recherche de l'essence derrière l'apparence, et qui ne s'embarrasse pas des réalités floues, ambiguës dont s'encombrent les sciences sociales, oppose la classe ouvrière, le prolétariat, les travailleurs, tout ce monde-là avec des majuscules, aux grandes figures allégoriques de la domination, l'État, la bourgeoisie, le patronat, etc. Et que cette posture philosophique a longtemps fait obstacle, en quelque sorte, ou plus exactement a permis de faire l'économie de l'observation des pratiques des classes en question. Mais je crois aussi que la rupture avec ce théoricisme conduit souvent, ou a souvent conduit, à son inversion, à une espèce d'abdication théorique de l'empirisme, qui tente à réduire l'enquête au constat et qui méconnaît, le plus souvent, c'est dans cela que je crois que c'est relativement grave, qui méconnaît la théorie qu'engage toute espèce de constat. Le recours au terrain ou aux archives sans théorie méconnaît en effet le rapport non réflexif à l'objet qui lui tient lieu de théorie et substitue très souvent à la sociologie spontanée de l'enquêteur celle de ses enquêtés. De sorte que contre cette oscillation entre théoricisme et empirisme naïf, où l'enregistrement est constitué en substance dernière, on est amené à des constructions d'objets qui sont... Enfin, il faudrait, bon, je crois, systématiquement, construire des objets soumis à l'épreuve de l'enquête. Alors, quant à la prétention scientiste, souvent attribuée à ce genre de démarche, construction d'objets mise à l'épreuve d'une enquête empirique, il faut rappeler, d'une part, que même si elle en diffère, les explications sociologiques recoupent souvent des représentations communes. D'autre part, que s'il y a une vérité, c'est que la vérité est toujours un enjeu de lutte. Et que, quoi qu'on fasse, tout discours sur le monde social, y compris celui des sociologues, est voué à participer aux luttes symboliques qui ont pour enjeu justement la représentation du monde social, ce dont je parlais au tout début. Comment enquêter aujourd'hui sur les classes populaires ? Marie rappelait à l'instant les ébauches de construction d'objets proposées par Olivier Schwartz il y a pas très longtemps. Je crois qu'on peut souscrire à ça. Bon, définir les classes populaires à travers une espèce de définition minimum, hein, qui définit les classes populaires à travers des propriétés de position, définies soit par le rapport salarial dans la tradition marxiste, ou bien définies par le volume et la composition des ressources économiques et culturelles détenues dans la tradition de Pierre Bourdieu, et d'autre part des propriétés culturelles qui induisent ou supposent l'existence de formes de séparation culturelle, domination versus autonomie, populaire versus lettré, nous, eux, versus du côté Richard Hogarth. Donc, ébauche de construction d'objets qu'il faut mettre à l'épreuve de l'enquête, et c'est ce que font la plupart des travaux récents qui se sont multipliés au cours des dernières années, qui s'interrogent, par exemple, sur les incidences des changements morphologiques contre la conviction théorique, justement, que rien ne change. Hein, dans la théorie, les choses changent très peu. Quoi. Bon, là, les choses changent, donc on tient compte des changements, la désindustrialisation croissante, la tertiarisation croissante, le chômage de masse et la précarisation croissante, la massification scolaire, etc. Bon, voilà. Des interrogations, aussi, autre type d'interrogations classiques, par rapport au contour et au contenu de ces classes populaires. Hein, la question du flou des frontières entre les classes moyennes et les classes populaires, entre les ouvriers et les employés, entre la classe ouvrière respectable, Hogarth, et l'underclass, Wilson, entre les established et les outsiders, Elias Scottson, entre ouvriers pavillonnaires et ouvriers cités, etc. Voilà. Je crois que bon, c'est une espèce de description très, très rapide, je crois, de l'ensemble de la multiplication de travaux récents, qui me semble évidemment tout à fait intéressant. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, j'en viens à l'alternative soumission-résistance, avant d'aborder ça, le misérabilisme-populisme, deux classiques en l'occurrence. En la matière, soumission-résistance, on assiste, je crois, aussi à une oscillation récurrente entre des théories de la domination qu'évoquait Luc Boltanski hier après-midi et des théories de la résistance ou de la révolte. Alors, du côté des théories de la domination, il s'agit au fond de répondre à cette question que je posais au début de mon exposé. Pourquoi la prophétie marxiste ne s'est-elle pas accomplie ? Bon, voilà une question qu'il faut bien répondre, en tout cas quand on a été croyant. Comment comprendre que, de façon générale, d'ailleurs, de façon plus générale, l'ordre règne ? Voilà. Donc il y a plein de réponses qu'évoquait hier Boltanski, je rappelle très vite, les usages de la force physique, de la coercition physique, c'est Weber-Marx, la coercition économique, c'est Marx de façon centrale, hein, c'est l'idée des salariés contraints de vendre librement, avec les guillemets, leur force de travail, c'est aussi, bien sûr, tous les tentatives d'explication, d'adhésion, en quelque sorte, à l'ordre social, à travers la théorie de l'idéologie chez les marxistes, à travers déclinée à Francfort, à travers Adorno, Marcuse, etc., Max Weber, bien sûr, aussi, et les formes de domination, Émile Durkheim et Marcel Mauss, pourquoi pas, aussi, à travers les formes de conformisme logique et de conformisme moral à inculquer à chacun, Michel Foucault, évidemment, les réseaux de micro-pouvoirs qui s'exercent à différentes échelles, etc., puis Bourdieu, bien sûr, la violence symbolique. Bref, le répertoire est vaste, je n'y reviens pas. Alors, du côté des théories de la révolte, les choses sont plus, à vrai dire, il faut bien le dire, plus sommaires. Donc, je pense que c'est important d'y insister un peu, c'est ce que je vais faire rapidement néanmoins. Alors, l'explication bourdieusienne classique, mais pas seulement chez Bourdieu, pour expliquer la révolte, c'est au fond le thème de l'écart, du décalage possible, des décalages fréquents entre les dispositions et les positions. Grosso modo, ça donne des gens mécontents, voilà, hein, ou révoltés même, parce que voilà, leur position n'est pas ajustée à ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils croyaient, à ce qu'ils voulaient, à ce qu'ils pensent avoir droit, etc. Bon, c'est la théorie, par exemple, des intellectuels frustrés, telle que Chartier l'a exposé dans un article célèbre. C'est aussi les explications proposées de mai 1968 par des gens aussi différents que Raymond Boudon et ou Pierre Bourdieu. Bon, et puis il y a, et je pense que c'est intéressant sous ce rapport, le développement dont Boltanski parlait hier, parce qu'il en est l'auteur, de la sociologie de la critique, que reprend aujourd'hui à son compte un ancien althusserien converti, Jacques Rancière, dont je parlais tout à l'heure, qui, pour l'essentiel, je crois, se fonde sur une double critique de la sociologie critique. D'une part, l'idée d'avoir donné trop de force au dispositif de domination, en quelque sorte supposant une espèce de colonisation de l'expérience des acteurs, en inhibant en quelque sorte leur capacité critique. Et d'autre part, deuxième critique, le fait que les acteurs vivraient, de ce point de vue, dans une sorte d'illusion permanente que seul le sociologue pourrait dévoiler. Selon Luc Boltanski, les acteurs sont loin d'être aveugles et disposent tous de capacités critiques. Tous les acteurs ont des capacités réflexives, tous les acteurs ont des capacités d'action, peuvent mobiliser des savoir-faire résistants, etc. C'est le thème de empowerment et agency. Bien, alors comment se situer par rapport à cette sociologie de la critique ? L'alternative étant entre des agents passifs entièrement soumis à une domination dont ils n'ont pas conscience, je caricature, hein, ou bien des acteurs capables de réflexivité et activement engagés dans des enquêtes, des disputes, des épreuves, etc. Bien, alors il me semble, quant à moi, que la critique de Boltanski et d'autres est recevable, mais je crois sous un ensemble de réserves, et c'est ces réserves que je voudrais essayer de formuler, j'en vois au moins 5. Alors, première, c'est la question de l'asymétrie des ressources, qui me semble, pour de multiples raisons, devoir être mise en avant. Je vois mal comment les acteurs en question pourraient être supposés également équipés pour se lancer dans des disputes. À mon avis, je ne vais pas développer, mais de mille façons, on pourrait montrer qu'ils sont inégalement équipés, ne serait-ce que d'autorité, par exemple, pour se lancer dans les disputes en question. Deuxième critique, il me semble que les conjonctures auxquelles il faut prêter attention sont inégalement favorables à la réflexivité et à la résistance. Il existe, je crois, des moments d'acceptation tacite de la réalité, mais il existe aussi, c'est vrai, des moments de révolte, ou des moments où l'ordre social se trouve en quelque sorte remis en cause, même si donc l'absence de révolte correspond à des états stables les plus fréquents. Il faut aussi s'interroger, et je pense que c'est important, voilà, c'est un plan d'enquête empirique, sur les événements favorables. C'est quoi les événements favorables ? Qu'est-ce que c'est qu'une conjoncture favorable à la révolte ? Troisième réserve, je crois qu'il faut s'interroger aussi si la réflexivité n'est pas étrangère par définition à tout un chacun, ou serait réservée exclusivement aux sociologues, ce qui est évidemment idiot. Il faut s'interroger alors sur les conditions sociales de la réflexivité, sur les conditions sociales de l'émergence d'un sentiment d'injustice. Hobsbawm, par exemple, avait montré que les mouvements sociaux spontanés se constituaient au sein d'une matrice de conventions et d'hypothèses sur la façon dont les gens devaient se comporter les uns avec les autres. C'est la même idée qu'on retrouve chez Thompson avec les économies morales, etc. Pour comprendre donc ce que les acteurs croient possible et légitime de vouloir, il faut insister, je crois, sur l'importance de la référence au passé. Avant, ce n'était pas comme ça. Sur la référence possible à un ailleurs. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ou bien à une promesse non tenue, c'est pas ce qu'ils avaient dit. Bon, je pense qu'on est là, voilà, à travers ces trois réflexions, je crois, voilà trois types de conjonctures, de situations qui sont propices justement à l'énoncé d'un début de pensée réflexive. Voilà. Quatrième point, je crois qu'il faut s'interroger aussi sur, ça c'est beaucoup plus banal, les conditions sociales de l'action, de l'engagement dans les conflits. Je pense que c'est la construction de collectifs, hein, de groupes mobilisés, est tout à fait essentiel par rapport à la lutte contre une chose profondément intériorisée par chacun d'entre nous, le sentiment de l'impuissance individuelle. Bon, je pense qu'il faut aller à l'encontre du sentiment de l'impuissance individuelle et qu'il n'y a pas d'autre solution que de fabriquer du collectif. Donc il faut, je crois, un autre programme de recherche empirique important, mais celui-là est très développé, l'analyse des manières pour un groupe de se constituer comme groupe, de se doter d'une identité, de se symboliser lui-même. Il faut s'interroger sur l'effet propre de l'offre linguistique, de l'offre de discours déjà constituée et de modèles d'action collective. Cinquième réserve, ce sera la dernière que je voudrais énoncer par rapport à ce programme, c'est, je crois qu'il faut insister sur l'ambiguïté, au moins dans certains cas, de la labellisation résistance, ce qu'on appelle résistance, insubordination, etc. Hobsbawm, encore lui, rappelle que ce que nous appelons révolte, rébellion, résistance, etc., est une catégorie inventée par ceux qui sont au pouvoir. Et Bourdieu insistait sur la contradiction inscrite dans la logique de la domination symbolique, sur les effets de contre-finalités qui sont inhérents à toute possibilité, à toute position dominée. Il disait, lorsque les dominés affirment ce qui les distingue, c'est-à-dire cela même au nom de quoi ils sont dominés, faut-il parler de résistance ? Quand à l'inverse, ils travaillent à perdre ce qui les marque comme vulgaire, est-ce que c'est de la soumission ? Force est sans doute, je crois, de conclure que la résistance peut être aliénante et que la soumission peut être libératrice. Ainsi, Paul Willis, par exemple, montre comment la culture anti-école, résistance, est justement au principe de la soumission à l'ordre industriel. J'en viens à misérabilisme, populisme. J'ai fini, ah oui, je suis trop long.
Quelques minutes.
Bon, j'essaie de faire très vite. Ouais. Bon. Misérabilisme, populisme, bon, donc j'essaie d'accélérer. C'est la troisième alternative récurrente donc, que je voulais évoquer et qui s'est imposée, je crois, dans l'esprit des sociologues avec l'écho trouvé par le livre célèbre de Grillon et Passeron sur le savant et le populaire. Alors, à ce propos, bon, je crois qu'il faut partir, à mon sens, de l'ethnocentrisme intellectuel. Et comment de l'ethnocentrisme intellectuel on passe au populisme ? Ethnocentrisme intellectuel, c'est rien d'autre que... Donc, l'ethnocentrisme intellectuel, c'est la chose la plus banale qui soit, hein, je veux dire, c'est le fait qui nous concerne tous. C'est l'idée, au fond, c'est le rapport à son objet qui tente à projeter une conscience d'intellectuel dans une pratique d'ouvrier ou d'employé. En quelque sorte, c'est le paradigme du garçon de café de Sartre, quoi, bon, qui a une tête de philosophe, c'est la critique qu'en fait Bourdieu, hein, bon, qui projette une tête de philosophe dans un corps de garçon de café, quoi. Bon, voilà, je pense qu'on fait la même chose avec ouvriers ou employés, mais c'est la chose la plus spontanée qui soit. Ce type-là d'ethnocentrisme intellectuel produit à un pôle un ouvrier tout entier engagé dans les luttes, celui des gauchistes dont je parlais tout à l'heure, et à l'autre, par simple inversion, comme dans les mythes, un ouvrier désespérément résigné à n'être que ce qu'il est. Le populisme, de ce point de vue-là, n'est qu'une forme inversée, je crois, du racisme de classe. Inspiré par le souci de rompre, justement, avec cet ethnocentrisme intellectuel, il prend la forme d'un relativisme culturel qui fait disparaître aussi les effets de la domination, ou inspiré par un souci de réhabilitation, qui dépend bien sûr de la valeur de la cause du populaire à un moment donné du temps. Voilà. On pourrait, par rapport à ça, évoquer la diversité des formes de populisme. Il peut être politique, religieux, littéraire, sociologique aussi, bien sûr. Il peut être de droite, il peut être de gauche. C'est l'empoétisation folklorisante à un pôle ou l'ouvriérisme dont je parlais tout à l'heure à un autre. Voilà. Voilà pour le populisme. Alors, deuxième aspect, de l'objectivisme au misérabilisme. L'objectivation, souvent à base d'enquêtes statistiques, dont je parlais tout à l'heure, des inégalités de ressources économiques, scolaires, culturelles, etc., est dite misérabiliste lorsqu'elle convertit les différences enregistrées, objectivées, en manque, l'altérité, en moins-être, etc. Je cite là Grignon-Passeron. Dans cette perspective, on peut d'ailleurs aussi, là aussi, opposer un misérabilisme de droite. C'est la naturalisation du manque. Ils sont congénitalement comme ça, il leur manque quelque chose, il leur manque une case, en quelque sorte. Un misérabilisme de gauche, hein, qui déplore un manque socialement construit. Mais la question posée me semble être en fait celle de la perception, en tout cas la question importante, celle de la perception par les intéressés de ces inégalités. Elle renvoie, je crois, à la question de l'autonomie, hétéronomie des classes populaires. Autonomie, c'est la thèse, l'importance, je pense, de l'importation en France du travail de Richard Hogarth, qui montre comment ce monde populaire, en tout cas celui qu'il décrit, le monde populaire anglais des années 50, a construit en quelque sorte un espèce d'entre-soi protégé, construction qui est à la fois objective et subjective, d'un entre-soi protégé, d'une frontière entre eux et nous, qui ménage en quelque sorte le quant à soi, etc., où c'est aussi l'idée que développait Bourdieu quand il parlait de l'aménagement, la construction de ce qu'il appelait des marchés francs. Voilà, alors, bon, je passe sur l'exemple. Hétéronomie, il faut rappeler, à l'inverse de cette vision, donc cette conception de la description possible des pratiques des classes populaires, il faut aussi rappeler que les cultures populaires les plus autonomes, les plus isolés, les mieux protégés, ne sont jamais autarciques. Elles ne sont jamais autarciques du fait, dans nos sociétés, en tout cas, de l'extension de la juridiction scolaire. Nul n'échappe à l'école en ces périodes de massification. Du fait de la proximité matérielle et symbolique des classes dominantes. Du fait aussi de ce que Olivier Schwartz appelle la remise en cause du modèle des univers ségrégés, etc. Je n'ai pas le temps de développer. De sorte qu'il me semble que l'alternative pertinente en la matière n'est sans doute pas tant celle entre misérabilisme et populisme qu'avaient mis en avant Grignon et Passeron, que celle entre autonomie et hétéronomie des classes populaires, entre pure autonomie et total enfermement, si on veut caricaturer les choses. Au fond, il s'agit de montrer comment le groupe ou la classe perçoit comme vivable, en quelque sorte, la condition objective qui le définit, c'est-à-dire entre autonomie et hétéronomie. C'est la perspective de Hogarth qui met en évidence le quant à soi, l'attention oblique, la consommation nonchalante, etc., par rapport à la culture de masse. C'est aussi celle de Janice Radway, etc. Mais c'était aussi celle de Bourdieu qui, à l'inverse de l'interprétation mécaniste qui réduit le travailleur à son poste de travail et le déduit directement de son poste de travail, analyse les modalités, justement, de l'ajustement du travailleur à sa position. C'est l'article célèbre sur la double vérité du travail. C'est encore la perspective de Bourdieu qui montrait que les discours des dominés varient profondément selon leur inclination et leur aptitude à profiter des libertés réglées qu'offrent les marchés francs, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des espaces protégés des classes populaires, ou à accepter les contraintes qu'imposent les marchés dominants. Je conclue.
Très, très vite.
Voilà. Je voudrais donc, pour conclure, revenir sur l'opposition entre théorie et empirie que j'avais envisagée au début, mais sous l'angle unité, diversité des classes populaires que tu évoquais à l'instant et que va reprendre derrière moi Christelle. Qu'il s'agisse de la théorie marxiste, ou de celle de Bourdieu, ou encore de la vision élargie proposée par Olivier Schwartz, la théorie tend à entretenir l'illusion de l'uniformité des classes populaires. En général, la classe ouvrière blanche masculine. Bon, ne serait-ce qu'en proposant un substantif unique pour les désigner qui invite à croire à l'unicité de la substance qu'il désigne. À l'inverse, la multiplication des enquêtes de terrain a le mérite de mettre en évidence les lignes de clivage qui les traversent, clivage de génération, de genre, clivage ethnique, clivage entre ouvriers de production, ouvriers de service, etc. etc. Bien. Mais, comme le souligne Éric Neveu, le risque est alors à l'inverse celui de la fragmentation du populaire. La vision rapprochée de l'enquête ethnographique incite à repérer les différences, à exacerber les antagonismes, à identifier, sinon à multiplier, les subcultures et les microcultures, etc., et à la limite, à ne plus voir que des individus perçus à tort ou à raison comme des cas résolument singuliers. Le risque est alors de fragmentation, d'atomisation, et ce risque est d'autant plus grand qu'on multiplie les variables sans les hiérarchiser, que la rupture avec l'économisme marxiste, déplaçant l'intérêt du travail sur le hors-travail, du sens économique vers les ressources culturelles, multiplie les configurations possibles. Or, demande Éric Neveu, dont je parlais à l'instant, comment ce populaire compliqué, dit-il, gagne-t-il sa vie? Voilà, c'est une question qu'on tend à ignorer aujourd'hui, et je crois qu'il a raison de le rappeler. En définitive, il me semble que les embardés théoricistes, objectivistes, économicistes des années 60-70 ont provoqué des embardés en sens inverse, empiristes, subjectivistes, culturalistes. Peut-être pourrait-on éviter alors d'avoir perpétuellement à redresser des bâtons tordus. Je vous remercie de votre attention.
Alors mon propos va situer dans un autre registre. Donc je vais vous présenter une enquête ethnographique qui porte sur des femmes travaillant comme aide à domicile par l'intermédiaire d'une association d'une petite ville de banlieue parisienne. Peut-être est-il important de préciser ce que font ces aides à domicile pour éviter tout malentendu. Donc ce sont des femmes qui interviennent chez 4-5 personnes âgées différentes par jour, pour y réaliser des tâches de la vie quotidienne, le ménage, les courses, la préparation des repas, et les aider à faire leur toilette ou à s'habiller. Alors, je ne vais pas résumer ici l'ensemble de cette recherche. J'ai fait le choix d'insister sur 3 points qui s'inscrivent dans la thématique du changement social qui m'a été proposée. Alors avant d'entrer dans ce premier point, je voudrais revenir sur la thématique, puisque son titre exact était, je crois, « Groupe dominé et changement social ». Donc pour ma part, j'inscris mes travaux dans le sillage d'une sociologie des classes populaires qui mobilise plus rarement cette notion de groupe dominé. Il s'agit d'être attentive, bien sûr, aux formes de domination et même aux différents degrés de domination dans lesquels peuvent se trouver ces femmes, mais pour autant de ne pas réduire l'ensemble de leurs attitudes et de leur comportement, donc à cette question de la domination. Il me semble que cette précision est d'autant plus importante concernant des catégories comme celle d'aide à domicile, qu'il n'est pas rare que leur travail soit rabattu sur la domesticité. Donc je voudrais, dans un premier point, dire quelques mots de la façon dont une enquête sur des aides à domicile peut nourrir cette thématique du changement social, ce qui, évidemment, n'est pas si évident de prime abord. Alors, je commencerai peut-être par rappeler que cette thématique du changement social, elle n'est pas du tout nouvelle en sociologie des classes populaires. C'est même une thématique qui irrigue toute la sociologie des classes populaires. Par exemple, dans son livre, Hogarth s'interroge précisément sur la diffusion de biens culturels, notamment sur la diffusion des magazines, des journaux, et sur la manière dont la diffusion de ces magazines, ces journaux, affecte la culture populaire, comment les classes populaires à la fois y résistent, sont perméables à cette diffusion des magazines et des normes qui sont portées par ces magazines, ces journaux. De la même manière, chez De Certeau, on repose cette question concernant la télévision. Donc, cette question du changement social ou de la manière dont les classes populaires sont affectées, perméables à un certain nombre de changements de structure, Elle est très présente dès le début de la sociologie des classes populaires. Je dirais que dans les années 80-90, et là ça fait un peu écho à ce que vient de dire Gérard, dans les années 80-90, cette thématique elle est également très présente, mais la tonalité, hein, actualité oblige, est beaucoup plus noire. Il s'agit de s'interroger sur les effets de la précarité, du chômage, du déclin évidemment du PCF, sur la transformation des services publics, tous ces changements en fait de fond, et il s'agit bien de s'interroger sur comment ces changements de fond affectent notamment les formes de solidarité au sein des groupes populaires. Il me semble, c'est peut-être une interprétation, je ne sais pas, il me semble que ce que propose Olivier Schwartz dans son HDR, c'est justement de poursuivre hein, le travail sur ce lien entre changement social et classe populaire, mais en étant plus offensif, je dirais, et en prenant frontalement cette question du changement social sans la laisser au tenant de la moyennisation. Et notamment, ce qu'il entend dire, c'est, enfin, il me semble, hein, c'est comme ça que je la lis en tous les cas, il me semble que la perméabilité, la déstabilisation ou les formes de résistance des milieux populaires face aux grands changements de fond, il propose en quelque sorte d'aller plus loin que cette question-là et de poser vraiment la question des processus acculturatifs qui travaillent les milieux populaires, les transforment et comment se transforment les frontières de classe. Et là, je rejoins ce qu'a dit Marie en introduction. Il me semble effectivement qu'il propose d'ouvrir les chantiers empiriques qui permettent de caractériser les classes populaires contemporaines, quitte à en venir à dire que certains groupes sont pas si populaires que ça. Il insiste notamment sur deux vecteurs de ce changement. Gérard Mauger en a parlé, l'allongement de la scolarisation, qui signifie que les jeunes générations ont des compétences culturelles et se faisant sociales plus importantes que leurs aînés, et qui rend peut-être impossible la reproduction, par exemple, de la classe ouvrière, hein, comme on peut le retrouver dans les travaux de Stéphane Beau et Michel Pialou. Il insiste également sur la tertiarisation des emplois. Des fractions de plus en plus importantes des couches populaires salariées se retrouvent, via leur emploi dans le tertiaire, au contact d'autres groupes sociaux. Et pour faire leur travail, ils sont amenés à entrer en relation avec ces groupes sociaux, donc à développer un certain nombre de compétences sociales. Alors, en quoi une recherche sur les aides à domicile est-elle susceptible de prolonger cette thématique du lien entre classe populaire et changement social ? Alors, je dirais tout simplement pour commencer que ce groupe des aides à domicile est en quelque sorte un nouveau visage des couches populaires salariées, puisque dans les années 70, il y avait moins de 30 000 aides à domicile, il y en a plus de 500 000 aujourd'hui. Donc, pour qui veut caractériser les groupes populaires aujourd'hui, il est difficile de faire l'impasse sur les aides à domicile, mais aussi sur les assistantes maternelles ou les femmes de ménage. Ces trois catégories regroupent plus de 1 million d'individus dans la population active. Le deuxième élément important, me semble-t-il, posé par une recherche sur les aides à domicile, concerne l'activité des femmes de classe populaire. Comme l'écrivent Méron et Marouani dans un livre récent. Ce moment, les recherches sur les classes populaires se sont concentrées sur ce qu'elles appellent une parenthèse, c'est-à-dire ce moment où massivement les femmes de milieux populaires s'arrêtaient de travailler après la naissance de leurs enfants et leur mariage. Bien sûr, il y a toujours des interruptions d'activité chez les femmes de milieux populaires, mais il y a un passage plus prolongé sur le marché du travail aujourd'hui. Et ce passage prolongé sur le marché du travail, il se fait essentiellement par ces emplois de service direct aux particuliers. Donc la question qui est posée par l'étude de ces emplois, c'est comment le fait que ces femmes restent de manière prolongée sur le marché du travail, comment cela affecte les rapports de force entre les sexes au sein des milieux populaires. Un autre élément important, me semble-t-il, posé par cette question de l'aide à domicile, concerne le fait que, désormais, dans ces emplois, des femmes sont rémunérées pour faire des tâches domestiques. Alors, quels effets ça peut avoir sur, une fois de plus, les rapports de force entre les sexes dans ces milieux ? Je dirais très brièvement que les effets ne sont pas simples. Je dirais d'une part que il est bien évident que le fait que massivement des femmes se retrouvent dans ces emplois induit une socialisation, une resocialisation à des tâches domestiques historiquement assignées aux femmes. Et donc, en ce sens, renforce la division sexuelle du travail. Et en même temps, d'une part, ces femmes considèrent que quand elles font de l'aide à domicile, elles vont travailler à l'extérieur, elles apportent un salaire, parfois c'est le seul salaire du ménage puisqu'elles ont des conjoints qui sont au chômage, ouvriers en pré-retraite, etc. Par ailleurs, ce qui ressort en fait de mon enquête, c'est la prise de conscience de ces femmes de l'effort fourni pour faire du travail domestique. Et notamment, elles vont dans différents domiciles, elles changent d'intervention, ce qu'elles appellent des interventions, elles comparent les conditions de travail et l'effort physique qu'elles fournissent. Par exemple, j'ai une enquêtée sénégalaise qui me dit « Moi, depuis que je fais de l'aide à domicile, le week-end, je ne fais plus de ménage. C'est mon mari, je ne peux plus. » Et tout ça pour vous dire que les effets en fait, de ces emplois sur les milieux populaires, ils ne sont pas si évidents que ça. Quatrième élément que soulève donc l'étude des aides à domicile concerne en fait la place de ce travail dans les valeurs en milieu populaire. Les recherches qui ont porté sur le lien entre travail et appartenance au milieu populaire se sont centrées sur les travailleurs des grandes organisations industrielles. De ce fait, la solidarité de classe, les attitudes de résistance à la domination, les expressions d'une certaine autonomie culturelle des membres de la classe, tout ça, ça prend racine dans des collectifs de travail, dans des mobilisations, dans la fierté de savoir-faire qui vont être reconnues par les pairs, les sociabilités locales, dans les sociabilités locales, etc. À bien des égards, le travail des aides à domicile apparaît évidemment comme une sorte de figure repoussoire du travail ouvrier. Travailler comme aide à domicile, ça veut dire travailler isolé des collectifs, ne pas avoir une hiérarchie bien identifiée, etc., etc. Donc, par certains aspects, ça questionne en profondeur en fait les milieux populaires. Qu'est-ce que ça fait aux milieux populaires que des femmes gagnent l'argent du ménage dans des emplois aux antipodes de ceux qui ont façonné la fierté ouvrière ? Qu'est-ce que ça fait que des femmes de milieux populaires, pour certaines, s'investissent positivement dans ces emplois, en sont fières ? Et donc, qu'est-ce que ça fait en interne ? Donc, jusqu'à présent, j'ai qualifié ces femmes de membres des classes populaires. Il est bien évident qu'une sociologie des classes populaires attentive au changement social ne présuppose pas cette appartenance. Du fait de leur salaire et de leur position dans la division du travail, ces femmes, elles paraissent sans nul doute appartenir au milieu populaire. Néanmoins, mon enquête fait apparaître deux conceptions du travail parmi ces femmes, parmi les aides à domicile, et ce faisant deux types de relations aux autres groupes sociaux au sein de ces femmes. Donc schématiquement, on peut dire que les unes s'identifient à leur travail, se disent fières de faire de l'aide à domicile, s'investissent dans ce qu'elles appellent, elles disent aimer, s'occuper des personnes âgées, etc. Donc il y a tout un vocabulaire très positif. Mais une autre partie des femmes que j'ai rencontrées ont un discours tout à fait offensif et inverse, disant que Elles n'aiment pas spécialement s'occuper de personnes âgées. Elles en parlent crûment. Torcher les vieux ou faire autre chose, c'est pareil, etc. Donc, elles ont un discours en fait de mise à distance très nette de cette activité. Donc, je voudrais dans un deuxième temps donc m'arrêter sur ces aides à domicile pour commencer, hein, m'arrêter sur celles qui ne s'identifient pas à leur travail ou qui le mettent à distance. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans l'ensemble des indices qui me permettent de situer cette conception du travail. Et notamment, je vais laisser de côté tout un pan des relations sociales qu'elles ont avec les personnes âgées ou avec une fraction, notamment modeste, du personnel de bureau de l'association, par l'intermédiaire de laquelle elles travaillent. On peut retenir, pour commencer, qu'elles refusent d'apparaître comme spécialisées dans la prise en charge de la dépendance. Quand je leur demande « Est-ce que toi, tu fais des toilettes ?» Ah non, ça, jamais. Ça m'arrive jamais. Et puis, dans d'autres contextes, je leur repose cette question. Je leur dis « Mais t'es sûre que t'as jamais fait toilette ?» Alors là, c'est toujours une fois. Une fois, c'est vrai, j'ai fait une toilette. Et en général, c'est assez sordide la façon dont elles le racontent. Il y avait de la merde partout, etc. Donc, elles présentent vraiment, par exemple, ce type de tâches, elles les mettent vraiment à distance, au moins dans leurs discours. Hein, ça ne veut pas dire que dans les pratiques, elles ne le font pas. Mais en tous les cas, dans les discours, elles tiennent à apparaître comme celles qui ne s'occupent pas spécifiquement de vieux, qui n'investissent pas les tâches, notamment, de relations avec les personnes âgées. Elles ne veulent pas spécialement parler, par exemple, avec des personnes âgées. Alors ces femmes, pour le dire très rapidement, hein, si on essaye de les situer socialement, sont des femmes qui généralement ont eu ce qu'elles appellent des métiers, c'est-à-dire que quand je leur dis, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, elles, au lieu de me répondre en parlant de l'aide à domicile, même quand elles y travaillent depuis 15 ans, elles me répondent en parlant de leur métier, c'est-à-dire de celui qu'elles faisaient avant de rentrer dans l'aide à domicile. Donc de leur métier d'ouvrière, de petite patronne de commerce, notamment coiffeuses. Certaines ont été vendeuses dans du commerce de luxe ou encore employées de bureau. Donc ces femmes, elles ont eu des métiers avant, elles ont plutôt des ressources locales, c'est-à-dire que généralement, si elles se retrouvent dans la ville, donc la ville, je l'ai appelée Mervan, hein, c'est anonymisé, donc la ville dans laquelle elles travaillent s'appelle Mervan, et si elles se retrouvent aides à domicile dans cette ville, c'est précisément parce qu'elles ont cherché à rester proches de leur famille. C'est-à-dire que, par exemple, leur entreprise change de site, leur conserve leur poste, mais elles ne suivent pas l'entreprise, elles restent près de leur famille, et dans ces cas-là, elles finissent, comme elles disent, dans l'aide à domicile. Donc ces femmes-là, elles ont des ressources locales, elles viennent plutôt de familles stables, des milieux populaires. Leurs parents ont souvent été ouvriers qualifiés, ont gravi, par exemple, des échelons. Donc elles ont une façon de présenter leur travail qui fait en quelque sorte écho à cette image repoussoire de l'aide à domicile en milieu ouvrier. Et de fait, on peut dire qu'elles sont relativement liées à des fractions stables des milieux populaires. Pour autant, et j'insiste sur ce point, c'est pas parce qu'elles mettent à distance leur travail dans les discours qu'elles ne s'y investissent pas. Et quand on les suit dans leur travail, elles mettent une grosse énergie à faire leur travail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elles mettent en positif dans ce travail. Ce qu'elles mettent en positif, ou pour elles, ce dont elles sont fières dans ce travail, c'est essentiellement les tâches ménagères. C'est l'investissement physique. Elles aiment repartir quand c'est tout propre. Elles ne comprennent pas leurs collègues qui font l'effort de parler avec une personne Alzheimer, par exemple. Pour elles, c'est pas du travail, ça c'est secondaire. Et même, ça les empêche de faire leur travail. Quand on va chez une personne âgée, elle trouve que je fais pas assez bien le ménage, que je frotte pas assez, tout ça, donc elles me disent « va discuter avec la mamie ». Donc histoire d'avoir la paix pendant qu'elles font le ménage. Donc la tâche principale, c'est bien la tâche physique de faire le ménage. Et donc j'ai tendance à dire pour ma part que cette façon de valoriser son travail, parce que après dans la rue elles discutent entre elles de toi t'as fait quoi chez telle personne, etc. Cette façon de valoriser leur travail en positif, d'en parler en positif, par le déploiement de la force physique, j'ai tendance à parler d'une virilité des femmes. De ces aides à domicile en tous les cas. Et cette manière de parler en positif de son travail via la valorisation de la force physique au travail, elle passe aussi par la force verbale. Parce que ces femmes, elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles gueulent. C'est-à-dire que quand je leur dis ben, « c'est bizarre, toi, tu n'as pas de personne chez laquelle c'est sale, par exemple. » J'ai suivi des aides à domicile dans des logements totalement insalubres. Quand je leur dis ça, elle me dit « mais c'est, moi, c'est parce que je gueule au bureau. » Donc, elle gueule et c'est tellement intériorisé comme comportement que des fois, je ne sais pas si je suis en train de me faire engueuler quand je leur parle. Mais c'est vraiment un truc très fort, quoi. Elles gueulent vraiment. Et donc, elles disent que elles gueulent au bureau, elles se racontent dans la rue des petites scènes où elles ont gueulé. À la fin, elles ont toujours gagné. C'est-à-dire, par exemple, je suis arrivée chez une personne âgée, elle m'a dit de repartir pour poster sa déclaration d'impôt. Alors, elle raconte qu'elle l'a fait, puis après, elle dit « mais après, je l'ai engueulée hein. ». Et donc, ça, à la fin, ça finit toujours comme ça. À la fin, elles ont toujours gagné par la force des mots. Alors, par la force verbale, c'est-à-dire à la fois en criant fort, mais aussi par la force des mots, et notamment en parlant crûment. Une aide à domicile raconte, une petite vieille ne sait pas comment s'y prendre, elle veut lui dire de retourner nettoyer la baignoire. Et l'aide à domicile arrive, et en fait, il y a des excréments, la dame a eu une fuite, et elle ne sait pas comment dire à l'aide à domicile de renettoyer la baignoire. Et elle met en cause son travail. Elle lui dit, il faudrait renettoyer, ce n'est pas très propre. Là, l'aide à domicile, elle me dit, mais moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde, c'est votre merde. C'est-à-dire, elles ont une façon quand même de reprendre le contrôle de leur force de travail et de pas se laisser, si vous voulez... pas laisser les, notamment les personnes âgées, mais aussi les membres de l'association qui encadrent leur travail, ne pas les laisser, si vous voulez, définir leur travail à leur place, le mettre en cause si facilement. Et elles vont très facilement au conflit par la force des mots. Donc, je vais écourter un peu sur ces femmes-là. Je voudrais dire que cette façon... De gueuler, de s'investir physiquement, c'est-à-dire ces formes de virilité au féminin, elles sont aussi le socle de formes de collectif. Et notamment, la plus grande bravade chez ces femmes, c'est quand elles s'engueulent avec la directrice, puisque la directrice, et notamment publiquement, la directrice de l'association, elle est engagée dans ce qu'elle appelle la professionnalisation de l'aide à domicile, qui passe notamment par le fait de plus parler avec des personnes âgées, être prête quand même à faire des toilettes, même si on n'est pas qualifié pour ça, etc. Et notamment coder son travail comme la prise en charge, une spécialisation dans le vieillissement et la dépendance. Et ça, elles refusent absolument de présenter leur travail comme ça. Cet investissement positif, il fonde aussi des formes de collectif. Là, j'ai pas le temps de détailler, mais j'ai des scènes comme ça où ces femmes, par exemple, vont absolument mettre en boîte l'emploi jeune qui est payé pour s'occuper de la professionnalisation et qui leur fait une formation. Et pendant toute la formation, c'est rigolade sur rigolade sur le dos de l'emploi jeune. À tel point qu'elle ne contrôle plus du tout à la fin la situation. Donc il y a quand même des manières de refaire du collectif, y compris dans ses emplois. Alors si ces femmes font du collectif contre notamment des femmes diplômées de classe moyenne supérieure avec lesquelles elles sont en contact au sein de l'association, donc la directrice ou les infirmières aussi d'ailleurs, ou une responsable du personnel, elles font aussi groupe, je dirais, contre leurs collègues qu'elles nomment les Arabes et les Noirs, qui sont celles qui soutiennent le projet de professionnalisation de la directrice. Alors je vais en parler par la suite. Disons que leurs collègues, celles qui s'investissent dans les tâches de soins aux personnes âgées, elles les qualifient à la fois de celles qui en foutent pas lourd, c'est-à-dire celles qu'on voit dans les squares, qui accompagnent les personnes âgées en sortie, etc., ce qu'elles, elles veulent pas faire du tout, d'autant qu'elles connaissent plein de monde dans la ville. Donc elles ne veulent pas accompagner les personnes âgées dans les squares. Donc à la fois, ce sont celles qui n'en foutent pas lourd et qui font des journées dingues, donc leurs collègues. Juste en un mot, ce que je montre donc dans cette enquête, c'est que cette manière de concevoir son travail et sa relation aux autres groupes sociaux, c'est aussi une manière d'imposer une forme de style de féminité, en tous les cas au moins de rapport au corps et de rapport à la charge des autres. et notamment en termes de rapport au corps. Donc là, on l'a vu un peu, elle valorise en positif l'investissement physique dans le travail, ce qui est une manière quand même d'avoir un corps autonome. En même temps, ce sont ces femmes-là qui, le soir, rentrent tout de suite après le travail, font jamais d'heures sup, viennent pas le week-end, etc., et qui tiennent à rester disponibles pour leur famille ou à paraître féminines au travail. Donc entre eux, à la fois... corps autonome et corps approprié, hein, pour reprendre des termes matérialistes. Et dans ce cadre-là, les Arabes et les Noirs, tels qu'elles stigmatisent leurs collègues, elles représentent justement cette, de manière idéale ce double rapport au corps. Les femmes arabes, ce sont celles qui sont dominées, et les femmes noires, ce sont celles qui sont trop émancipées. Et très clairement, en fait, dans la manière dont elles se positionnent, tout un rapport au corps se dessine. De la même manière, elle refuse de s'investir dans la charge des autres telle que définie par la directrice de l'association, ce qu'elle prenne comme une injonction managériale, et c'en est en partie une, c'est-à-dire que la directrice les pousse à s'investir dans le travail, à en faire plus que ce pour quoi elles sont payées. Mais c'est pas seulement une injonction managériale de la part de la directrice, c'est une vision de cette femme plutôt diplômée, ancienne infirmière de classe moyenne supérieure, qui croit vraiment au fait qu'on ne peut donner du sens à ce travail qu'en l'investissant, comme elle a une catégorie comme soignante, c'est-à-dire dans les relations avec les personnes âgées. Et ces femmes-là, elles ne partagent pas du tout cette conception du soin. Par exemple, si je vous donne un exemple rapidement, il y a une petite vieille qui me disait « mais je l'aime beaucoup, cette aide à domicile, je l'aime beaucoup », puis elle me répétait ça. Et au bout d'un moment, donc accompagnant tous les jours cette aide à domicile, je me suis rendu compte qu'elle lui achetait un litre de rouge par jour. Et ça va contre les prescriptions, évidemment, médicales, les prescriptions du médecin, contre l'avis de la famille, mais contre l'avis d'une partie des aides à domicile qui adhèrent à ces prescriptions médicales, qui endossent cette posture de soignante. « Ah non, madame, c'est pas bon pour vous. » Et en fait, elle ne partage pas du tout cette conception qui, pour moi, est située socialement. Et tout un autre ensemble de choses dont je ne vous parlerai pas ici parce que je n'ai pas le temps. Donc, juste en quelques mots pour parler des autres aides à domicile, celles qui croient à la professionnalisation de leur activité, donc qui acceptent de faire des heures supplémentaires, de se déplacer pour, par exemple, donner son repas à une personne âgée le soir, etc. Ces femmes-là, elles viennent en fait, elles ont emprunté deux trajectoires très différentes, mais en même temps qui ont un gros point commun, c'est la mobilité et l'éloignement de leurs proches. Ces femmes-là sont soit des femmes étrangères ou antillaises qui sont plutôt diplômées et qui viennent même de fractions plutôt proches des classes moyennes, en tous les cas de la fonction publique à l'étranger ou dans les dom-toms. Ou deux femmes, donc sont soit ces femmes-là qui viennent seules en France métropolitaine. Donc celles qui sont dans l'aide à domicile, elles sont plutôt seules. Et les autres femmes qui partagent ce rapport au travail sont plutôt des femmes, au contraire, qui constituent ce qu'on pourrait appeler un prolétariat, qui sont en rupture avec leur famille, qui peuvent être françaises de parents non immigrés, mais qui ont aussi, pour certaines, des parents immigrés, qui ont fui notamment des zones, des bassins d'emploi sinistrés économiquement, et qui se retrouvent en région parisienne, et qui prennent le seul travail qu'elles trouvent, à savoir l'aide à domicile. Donc toutes ces femmes, elles acceptent plein de tâches supplémentaires, et elles ont tout un discours en positif de l'investissement dans le soin aux personnes âgées dépendantes. Si on regarde de près leur conception du travail, et j'entrerai pas dans le détail, elle est beaucoup plus individuelle et individualiste. Elle n'hésite pas à entrer en concurrence avec leurs collègues. Souvent, quand elles font un remplacement d'une de leurs collègues, de celle dont j'ai parlé avant, elles obtiennent ensuite la prestation. C'est-à-dire que la famille dit « Oh, est-ce qu'on pourrait garder la remplaçante ?» etc. Donc, elles investissent très fortement leur travail. Donc, voilà, je développerai pas plus. Comment on peut comprendre ou lire ces comportements ? D'une part, évidemment, le comportement de ces femmes-ci, de ces aides à domicile-ci, est à lire en rapport avec leur situation économique plus fragile, leur mobilité et le fait qu'elles sont prêtes à accepter toutes les heures, qu'elles n'ont pas d'autre choix que de faire cela. Et j'ajouterais même que moi, je pense que c'est une façon de rompre, à la manière des ouvriers de Roy, de rompre la monotonie au travail. C'est-à-dire que c'est tellement monotone, en fait, le travail avec les personnes âgées, la répétition, surtout qu'elles font énormément d'interventions par jour. C'est une façon, vraiment, c'est les quotas de Roy, c'est-à-dire se donner comme objectif que telle personne âgée remarche à la fin de la semaine, ben, c'est une façon d'introduire du jeu dans son travail. Donc je pense qu'évidemment, une partie de leur comportement s'explique par leur position dominée. Mais il n'empêche que dans les relations avec notamment la directrice de l'association et l'une des responsables du personnel, un ensemble de comportements qu'elles ont prennent une valeur positive, elles en ont des gains symboliques mais aussi matériels, elles en tirent des gains symboliques et matériels. La directrice, elle va leur donner des primes, elle va les soutenir, elle va empêcher leur licenciement. Par exemple, certaines ne reviennent pas toujours de l'étranger à la fin des vacances, elles les protègent du licenciement. Une autre fraction des employés de bureau de l'association aimerait bien les licencier. Donc il y a tout un codage, si vous voulez, en positif de leur investissement dans le travail qui est fait par ces femmes-là. Par ailleurs, ces femmes, en travaillant énormément, en faisant beaucoup d'heures, elles occupent l'espace public. Il faut bien comprendre que dans la ville, par exemple, il n'est pas rare de les trouver dans les cafés, dans les restaurants, etc. Leurs collègues, elles vont jamais dans les cafés et les restaurants. J'ai pas pu, par exemple, les voir après le travail dans un café. Elles rentrent chez elles. Elles sont dans les cafés et les restaurants, elles sont dans les espaces publics. Alors évidemment, ça renvoie aussi à des conduites, par exemple, de dépenses. Elles dépensent beaucoup d'argent dans les restaurants, qui sont caractéristiques des fractions les plus fragiles des milieux populaires. Et en même temps, sur mon terrain, ces comportements-là, ils vont être codés positivement, par exemple, par la directrice qui va dire « vous avez bien raison d'utiliser votre salaire pour ça, profitez-en, etc. » Et donc, il y a tout un ensemble de comportements comme ça, codés positivement, qui, à mon sens, induisent une conversion des dispositions. Est-ce que cette conversion est durable ? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais une conversion des dispositions, et notamment ces femmes-là, elles apprennent à être fières de leur travail, à s'investir individuellement dans leur travail. Elles apprennent également à avoir des conduites de dépenses pour elles. Elles sont loin de leur famille, et ça, c'est toujours vu comme une contrainte et une forme de domination. Mais pour les femmes parfois migrantes, ça peut être une ressource d'être loin de sa famille. Et donc, elles ont un certain nombre de comportements qu'elles n'auraient pas ailleurs. Et je voudrais dire également, et ça m'échappe, mais ça va me revenir, que je ne sais plus, c'est pas grave. Donc dans ces comportements codés en positif, ouais, j'en oublie, hein, c'est pas grave. Ouais, donc tout ça pour dire que si on regarde de près ces femmes, on voit bien que par plein d'aspects, elles sont en situation dominée, etc., mais elles ne sont pas imperméables, évidemment, à des normes de femmes, notamment de classe moyenne. Bourgeois le dit avec au sujet de Candy, et on voit ça dans d'autres études américaines, ces femmes-là, très fragilisées, sont perméables à des normes, en fait, libérales des femmes de classe moyenne supérieure. Et donc la question est-ce qu'elles sont encore de milieu populaire ? Moi, je ne tranche pas, c'est-à-dire... Très clairement, elle dessine un autre modèle et en tous les cas un autre style de féminité au sein des femmes qui partagent cette condition dans le monde du travail. Voilà, je m'arrêterai là.